Les femmes écrivent, décryptent des enjeux qui nous concernent et font avancer les connaissances sur nous et notre monde. L'heure des éclaireuses veut susciter la rencontre de ces femmes, créer des complicités, confronter et partager leurs regards. L'heure des éclaireuses, c'est aussi pour prolonger en son la rencontre que vous ferez avec elles dans les pages de notre magazine féministe belge Axel.
Ce nouvel épisode de l'heure des éclaireuses, produit par le magazine féministe belge Axel, se penche sur notre destin politique en 2024. Nous accueillons deux expertes. Ariane Esten, présidente du mouvement ouvrier chrétien depuis 2019, réélue fin 2023 pour un second mandat. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Et Roxane, membre de la gauche anticapitaliste, militante féministe, engagée pour les solidarités internationales et travailleuse dans le secteur de la santé mentale. Bonjour Roxane.
Bonjour.
Alors un peu de contexte d'abord. Entre les élections à venir en juin et en octobre prochain, la Belgique se prépare à de multiples temps forts cette année. Les élections régionales et communautaires, fédérales et européennes, c'est pour le mois de juin, et puis communales et provinciales pour le mois d'octobre. Donc on s'est dit, Axel, que c'était l'occasion de dresser un bilan politique avec un regard féministe, mais aussi de nous questionner sur la confiance que les femmes, qui ont été heurtées de plein fouet par un chapelet de crise depuis 2019, on y reviendra, la confiance qu'elles peuvent porter ou non à notre système politique. Et puis ensuite, on s'avancera un petit peu à faire de la prospective pour nous mettre en garde, mais aussi peut-être, espérons-le, pour nous donner de la force collective. Alors commençons par un petit bilan d'abord. Les années écoulées depuis les élections de 2019 ont été marquées, comme je viens de le dire, par une succession de chocs. D'abord, simplement, si on se remet un petit peu dans l'histoire, la crise politique, on a passé près de 16 mois en fait sans gouvernement fédéral. La crise sanitaire, bien sûr, avec la pandémie de Covid-19. Une crise écologique avec les dramatiques inondations en Wallonie en juillet 2021, les canicules de l'été 2022. On a connu une guerre qui est encore en cours sur le sol européen à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Ça a entraîné l'explosion des tarifs de l'énergie, la précarisation accélérée d'une partie de la population qui était déjà en grande difficulté, comme on le documente très régulièrement dans les pages d'Axel. Je pense aussi à l'épidémie des violences de genre, au manque organisé de places dans les centres d'accueil, des toujours plus nombreux et nombreuses personnes exilées. Donc on le sait, en temps de crise, ce qui semblait auparavant impossible peut devenir une réalité. Alors la question, c'est est-ce que ça peut devenir une réalité en mieux ou en pire ? Comment est-ce que vous analysez, chacune d'entre vous, ces dernières années, en particulier pour les femmes ? Ariane, justement, ces dernières années ont coïncidé avec ta présidence.
Ben oui, je pense que le premier commentaire dans ce que tu dis, c'est la perception de la crise. On peut dire que ça fait 15 ans que chaque année, on se dit qu'on est en crise. Là, il y a eu des montages à l'occasion de la nouvelle année où, avec tous les discours de vœux qui disent « Ah, l'année dernière était horrible, l'année qui vient sera meilleure ». Et donc, je pense qu'il faut déjà s'habituer à l'idée qu'on vit une période de grande mutation où il y a de nombreuses crises enchevêtrées qui changent vraiment notre façon de vivre, les conditions matérielles de vie des personnes, et que ce n'est pas des crises qui passent et où on revient en avant, mais c'est des crises qui transforment profondément notre façon de vivre. Donc déjà, pour moi, ça interroge l'expression même de crise. Est-ce qu'on vit des crises ou est-ce que ce monde en mutation, c'est devenu la norme qui va perdurer et même s'amplifier ? Donc voilà, s'habituer à l'idée que les conditions matérielles sont en train de changer et qu'il faut repenser globalement un modèle qui permet de finalement maintenir l'égalité, la justice et la démocratie. Ça, c'est le premier commentaire. Et ensuite, quand tu posais la question, mais est-ce que ça va être pire ou mieux ? Je ne sais plus comment tu le formulais. Mais en fait, c'est impossible de le dire. Ce que ça a montré, le Covid, c'est que toute une série de politiques dont on disait qu'elles étaient impossibles à tenir avant ont été possibles. Tout d'un coup, on a suspendu la limitation dans le temps des allocations, on a dégagé plein d'argent public pour aider les personnes. On a trouvé des solutions auxquelles auparavant on disait c'est impossible. Donc ça a fait sauter le TINA. There is no alternative, en se disant, en fait, il y a des alternatives. Mais après, à partir de là, de ce constat, la question, c'est ce qu'on en fait. Et donc là, pour moi, c'est la question de l'action collective, du travail politique qui permet de construire des rapports de force pour transformer la société dans le sens qu'on veut, donc cette société égalitaire, juste, solidaire. Et ça, c'est des défis énormes parce qu'on sent qu'aujourd'hui, ça va un peu contre... Il y a une hégémonie culturelle, libérale, extrêmement forte et qu'on se sent de plus en plus minorisé à apporter cette vision de société-là. Et donc, c'est pas tout de le dire, quoi. Ça, pour moi, ça pose plutôt la question des stratégies d'alliance pour obtenir cette société égalitaire. Mais visiblement, les crises permettent aussi de faire des choses qu'on a toujours pensé impossibles à faire.
Merci Ariane. Et toi Roxane, comment est-ce que tu as vécu ces dernières années?
Oui, par rapport à la question de la crise politique, je pense qu'on est dans une crise plus générale du système de gouvernabilité capitaliste, et on peut même se dire que les guerres d'invasion à tendance génocidaire, comme celle en Ukraine, comme celle en Palestine, en sont l'ultime expression de cette crise de gouvernabilité, du crise du système politique, de l'ordre établi tel qu'il est. Et je pense qu'en Belgique, ça s'exprime aussi par le fait que les partis d'extrême-centre, hein, comme le PS, les Verts, les libéraux, les chrétiens, sont incapables de répondre aux crises, et ils sont incapables d'y répondre parce qu'ils ne veulent pas s'attaquer aux causes de ces crises. Et je pense que ça, c'est l'enjeu fondamental, c'est définir les causes de ces crises. Qu'est-ce qui se situe aux racines des crises? Et pour moi, c'est les fondamentaux du système. Donc c'est l'accumulation infinie, c'est le profit à court terme, c'est l'exploitation des travailleuses, des femmes, des travailleurs, des pays du Sud, de la nature. C'est tout ça qui est au fondement du système, et il faut pouvoir s'attaquer radicalement à ces causes. Tu parlais notamment des inondations. On peut décrire les conséquences des inondations, mais aussi qu'est-ce qui les a provoquées. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que le réchauffement climatique, il est le résultat de la course au profit, de l'hyperproduction, de la production de choses nuisibles pour l'environnement et l'humanité dans des conditions nuisibles, et que donc ça a des conséquences sur la planète. On provoque le réchauffement climatique, provoque des inondations qui vont toucher qui? Qui vont toucher les plus pauvres, dans la province de Liège et en Wallonie notamment. Pourquoi? Parce que les plus pauvres habitent près des zones inondables, et que les politiques n'ont aucun intérêt, ne cherchent pas à rendre ces zones plus vivables pour les personnes. Donc c'est ça, tout le système qui provoque les crises, et c'est à ça qu'on doit s'attaquer. Alors dans cette situation où les partis d'extrême-centre ne veulent fournir aucune réponse sérieuse, ça ouvre le champ à deux réponses, les réponses de la droite dure, les réponses de l'extrême droite, et quelque part aussi une réponse qui est quelque part l'antidote à la fois au parti capitaliste et à la fois au parti d'extrême droite, je pense. C'est les réponses de gauche, mais donc d'une gauche radicale qui est prête à s'attaquer aux vrais problèmes. Alors, comme tu l'as dit, et c'est important de s'en souvenir, qu'il y a eu des mesures exceptionnelles qui ont été mises en place dans le cadre du Covid et dans le cadre de la crise de l'énergie. Et ces mesures exceptionnelles, elles montrent que c'est dépendant de choix politiques, point. Que ce n'est pas une question de possibilité, pas possibilité. C'est qu'est-ce qu'on choisit, dans quel monde on veut vivre. Ariane t'a cité quelques exemples. Moi, j'avais en tête pour Bruxelles, notamment le moratoire sur l'indexation des loyers, le moratoire sur l'expulsion des locataires. Donc, c'est des mesures qui s'attaquent directement à la propriété privée, et qu'on n'imaginait pas possible. Mais pourtant, on le voit, c'est possible quand on en fait le choix. L'ouverture des hôtels pour répondre au manque de besoins d'hébergement d'urgence, que ce soit pour les personnes sans-abri, les femmes victimes de violences, les personnes sans-papiers, et puis la baisse du prix de l'énergie, quoi. Mais pour faire ces choix politiques-là, il faut que les politiques soient plus sous domination des groupes privés, et des groupes privés qui ont pour le moment le contrôle des secteurs vitaux. L'énergie, les médicaments, l'immobilier, les banques, les assurances, c'est les secteurs vitaux de la vie qui sont pour le moment sous contrôle de personnes qui cherchent juste à accumuler du profit et pas du tout à maintenir nos vies dignes. Juste une dernière chose sur le bilan de ces 5 dernières années, ça me paraît super important. C'est le bilan de toutes ces crises, mais c'est aussi le bilan de luttes fondamentales. Et moi, je pense aux luttes dans la santé pendant le Covid. Je pense aux grèves féministes dès le 8 mars 2019. Je pense aux grèves des travailleuses de Deleuze, aux grèves dans les titres-services. Enfin, des grèves dans des secteurs ultra-féminisés, la grande distribution, la santé, le nettoyage, et des grèves féministes. Donc voilà, je pense que quand Ariane, tu soulevais la question de qu'est-ce qu'on fait, on va poursuivre la discussion là-dessus, mais je pense qu'il faut se rappeler les luttes qui ont été menées aussi.
Oui, donc un bilan très mitigé, plus que mitigé, mais aussi sans oublier le bilan des luttes sociales. Ce n'est pas uniquement le bilan des politiques et des mesures gouvernementales.
Qui ont réussi à arracher des victoires. La grève de travailleuses domestiques, c'est une première mondiale. C'est énorme d'arriver à organiser ces femmes qui sont peut-être les personnes qui sont les plus difficiles.
Est-ce que vous pouvez resituer un petit peu pour nos auditrices la grève des travailleuses domestiques,
hein? Mais donc, c'est l'organisation de travailleuses qui travaillent souvent à domicile. Donc, c'est des personnes pour qui c'est super difficile de s'organiser, d'aller à des réunions, parce qu'elles vivent sur leur lieu de travail, donc elles sont très en proie à de l'exploitation et du contrôle. Et donc, ça fait des années que ce travail a lieu et qui a abouti l'année passée à la première grève. Donc, c'est des femmes qui ont décidé de se mettre en grève un jour dans leur travail à domicile et maintenant les actions continuent pour obtenir plus de droits pour ces femmes-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper remarquable pour ces femmes d'arriver à s'organiser, quoi.
Et justement, la grève, c'est un moyen d'expression démocratique. Autre moyen d'expression démocratique, le vote. Donc, c'est bien pour ça qu'on avance ces sujets maintenant. C'est parce qu'on va beaucoup, beaucoup voter l'année prochaine. Alors, est-ce que vous avez l'impression que cette expression-là, ce système d'expression-là fonctionne correctement dans notre démocratie, en particulier pour les femmes? Est-ce que les femmes sont représentées de façon adéquate? Est-ce que leur vote compte vraiment? Quelle est votre analyse?
Mais plus globalement, au MOC, on a l'habitude de parler des quatre dimensions de la démocratie. Donc, c'est peut-être important de replacer cette démocratie politique parmi d'autres formes de démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement le vote et la délégation du pouvoir une fois tous les cinq ans. Au MOC, on parle donc de la démocratie politique, c'est de ça qu'on va parler, mais aussi de la démocratie sociale, c'est-à-dire la concertation avec les organisations sociales, les syndicats. Donc, il y aura aussi des élections sociales cette année, d'ailleurs. La concertation économique, donc la démocratie économique, je veux dire que les travailleurs sur leur lieu de travail puissent avoir plus de pouvoir de décision par rapport aux grandes décisions de leurs entreprises, et puis la démocratie culturelle. Donc pour récapituler, démocratie politique, démocratie sociale, démocratie économique et démocratie culturelle. Et la démocratie culturelle, ben finalement, c'est le travail que toutes les associations mènent tous les jours pour construire une culture commune, une vision partagée de la société, et donc en particulier le travail de toutes les associations d'éducation permanente participe vraiment à cette démocratie culturelle. Et donc, voilà, pour moi, le moment d'aller voter, c'est un moment dans une démocratie qui ne s'arrête jamais. Voilà, tu prenais l'exemple de grève. Ben, l'exemple de grève, c'est un autre acte démocratique qui est à l'intersection de la démocratie économique, de la démocratie sociale et de la démocratie culturelle. Donc voilà, déjà ça c'est pour donner la vision d'ensemble qu'on est tout le temps en travail démocratique et c'est tout le temps à approfondir, à amplifier, à renouveler. Et puis dans ce moment-là, en effet, il y a des élections. Alors là, peut-être je te laisse la parole et puis on peut dialoguer là-dessus. Ouais.
Ouais. Moi je pense aussi quelque part qu'il faut... pour repenser les choses plus globalement, et que c'est une erreur de considérer les élections comme le temps fort de l'expression démocratique, hein, même si c'est clairement comme ça que ça nous l'est présenté. Et en même temps, c'est un moment fort du rapport de force idéologique dans la société. C'est un moment où on se pose des questions politiques, on se demande pour qui on va voter, on se demande de façon plus générale dans quelle société on veut vivre. Ce n'est pas le seul moment où on se pose la question, mais c'est quand même un moment privilégié, où c'est plus vivant, on va dire. En même temps, c'est vrai qu'il y a aussi toute l'expression d'une forme de désillusion, d'une fatigue, d'un manque de perspective et d'espoir, parce que la majorité des partis n'offrent aucune perspective de projet de société convaincant pour beaucoup de gens. Mais voilà, comme je disais, c'est aussi un moment fort du rapport de force idéologique. Et je pense que ce n'est pas un hasard si les élections européennes, fédérales et régionales ont été regroupés hein, avec la dernière réforme de l'État. C'est aussi une façon d'éviter qu'il y ait trop de pression sur les partis et limiter l'expression des réflexions, notamment sur les questions régionales et européennes. Il y aura beaucoup de débats sur le niveau fédéral. Et donc, dans l'actualité des choses, dans l'état actuel des choses, ben maintenant, les partis ils sont au gouvernement pendant 5 ans et ils font ce qu'ils veulent pendant 5 ans. Et donc, pour moi, pour nous aussi plus largement à la gauche anticapitaliste et dans certaines franges du mouvement féministe, je pense que pour nous, le centre de l'expression démocratique, il est à deux endroits. Et je réponds à ça. Et puis, ouais. Premièrement, dans les luttes. Dans les luttes ici et maintenant, pour prendre nos vies en main et instaurer un rapport de force. Donc la démocratie, c'est dans notre intervention collective directe dans les affaires qui nous concernent. La démocratie, c'est une AG du mouvement du 8 mars, c'est un piquet de grève chez Deleuze, c'est une manif pour la Palestine, c'est des actions de désobéissance code rouge. Ça, c'est le cœur de la démocratie. Et à terme, on peut aussi dire que la démocratie, c'est un projet de société. Hein. C'est l'auto-organisation généralisée, c'est-à-dire que la démocratie ne doit pas s'arrêter aux portes, notamment aux portes des administrations et des entreprises. Hein, les administrations et les entreprises, c'est des endroits où il y a des décisions vitales qui concernent nos vies. Et il faut que nous ayons tous et toutes du temps libre pour pouvoir diriger collectivement, en tant que travailleuses et usagères, notamment les services publics, notamment ben, qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, comment on le produit, pour quels besoins. Et donc, il faut que les lieux de travail et de vie soient dirigés par les travailleuses et habitantes réellement souveraines et non par la propriété privée, les patrons et les grandes multinationales. Pour prendre un exemple, ben, par exemple, les crèches, hein, où du côté francophone, il y a 37 places pour 100 enfants et du côté néerlandophone, il y a aussi beaucoup de problèmes et ça donne lieu à certaines luttes. On imagine bien qu'elles seraient organisées complètement différemment, ces crèches, si elles étaient organisées par les usagères et les travailleuses. Ce seraient des dispositifs complètement différents. C'est la même chose pour les maisons de repos. C'est la même chose si on se posait la question dans la grande distribution et l'alimentation. Qu'est-ce qu'on produit comme aliment de base? Comment on le distribue? Donc voilà, je pense qu'il faut pouvoir faire vivre une vision vraiment participative de la démocratie, vraiment souveraine, où on est tout à chacun et son mot à dire.
Et peut-être pour compléter, mais donc pour aller tout à fait dans le même sens, quelle critique on peut faire finalement à cette démocratie politique, au vote? C'est que peut-être il y a une époque dans le XXe siècle où il y avait des grands courants de pensée qui permettaient de se sentir complètement représentés, donc le socialisme, le libéralisme, le communisme, le conservatisme. On peut imaginer un peu en caricaturant qu'on s'identifiait à une famille qui, pour toutes les décisions ensuite que le politique avait à prendre, nous représentait. Toujours dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, on fait face à une complexification en fait, des enjeux qui fait que je crois plus personne peut dire « Ah, moi, je vote une fois tous les 5 ans et je suis content, je suis satisfait de la façon dont on me représente, dont les députés votent. » Et donc, il y a une nécessité de pouvoir habiter cette démocratie entre chacune des élections. Ça ne suffit plus ou ça ne suffit pas d'aller voter et puis de plus s'en mêler. Et on voit d'ailleurs ces dernières années qu'il y a vraiment un attrait, une envie des citoyens de s'engager, de pouvoir participer aux réflexions communes. C'était hyper fort le cas pour les politiques autour du Covid, par exemple, que les citoyens demandaient de pouvoir participer à la réflexion, souhaitaient le faire. Et aussi dans tous les mouvements sociaux qu'on a vus ces dernières années, par exemple les retraites en France, c'est aussi le cas. On voit vraiment une volonté de pouvoir s'impliquer au-delà des élections et du travail parlementaire. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'entre ces élections, il faut se donner d'autres moyens de pouvoir se donner des espaces de délibération collective, comme Roxane l'a dit, pour pouvoir continuer à délibérer ensemble au-delà de ce moment où on vote pour nos représentants. Et ça, je pense que c'est plus transversal que la question féministe de savoir est-ce que les femmes sont convenablement représentées. C'est une question démocratique, transversale, qui concerne finalement tous les citoyens et plus encore, on peut dire, les personnes les plus précaires et les plus éloignées du pouvoir, puisque aujourd'hui, ça reste une forme d'élite qui est élue principalement dans les parlements et donc avec une tendance aussi à la reproduction sociale, quoi.
C'est une question qui nous traverse beaucoup, Axel, bien sûr, puisque les médias sont quand même un maillon essentiel dans le dialogue démocratique au sein de la société. Surtout dans une démocratie représentative, ils sont un peu le cordon ombilical finalement, hein, entre la politique et les citoyens et citoyennes. Et nous, bah, notre réponse, c'est de faire la place aux femmes qui sont, en tout cas dans l'espace médiatique, encore très mal représentées de façon quantitative et qualitative. Mais merci pour ces réflexions qui sont très importantes. Et je voudrais vous poser une question qu'on a un petit peu touchée du doigt tout à l'heure, qui est la question du féminisme, de la gauche et des mouvements sociaux. On l'a un petit peu touché du doigt, notamment en parlant des grèves, des grèves féministes. À votre avis, comment est-ce que le féminisme peut actuellement nourrir, que ce soit la gauche, les mouvements sociaux plus largement? Qu'est-ce que la gauche et les mouvements sociaux ont à apprendre des expériences féministes multiples, que ce soit en Belgique ou ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a des initiatives ou des penseuses ou des collectifs que vous trouvez inspirant et qui pourrait vraiment contribuer à nourrir la gauche et les mouvements sociaux, voilà, dans cette période.
Mais moi, je pense que oui, les mouvements féministes, pour le mouvement ouvrier, pour les mouvements sociaux, peut apporter tout premièrement une vision, si on veut, aller au bout d'une vision anticapitaliste, au bout d'une vision de lutte de classe pour le mouvement ouvrier notamment. Et ça, notamment à travers, si on veut, toutes les analyses historiques de la deuxième vague, mais aussi d'un féminisme anticapitaliste, marxiste, qui fait le lien entre l'exploitation au travail, si on veut, et le travail nécessaire à la production et à la reproduction de travailleurs. Donc je m'explique, c'est-à-dire que le capitalisme nous exploite à travers le travail qu'on fournit et à travers le fait de prendre de ce travail du profit, d'en retirer du profit et de garder ce profit pour une minorité de la population. Mais pour que nous, en tant que travailleurs et travailleuses, on soit exploitables au travail, il faut aussi qu'on soit né, qu'on soit élevé, qu'on soit nourri, qu'on prenne soin de nous. Donc toutes ces dimensions du soin et du travail reproductif qui sont généralement pris en charge par les femmes. Et quand les services publics sont complètement attaqués dans les sphères privées, voilà. Et donc, le féminisme, il permet d'aller au bout de l'anticapitalisme, au bout de sa logique, par la valorisation du prendre soin, tant au niveau humain qu'au niveau écologique. Un deuxième aspect auquel je pense, c'est que le féminisme peut être le creuset pour tout le mouvement social de gauche. Et ça, c'est notamment quelque chose qu'on a pu voir dans des pays comme le Chili, l'Argentine, ou l'Iran également, c'est-à-dire que en s'attaquant à tous, si on défend un féminisme, alors voilà, après ça pose la question de quel féminisme on défend, mais si on a une lutte féministe qui assume qu'il faille une vraie transformation sociale globale, qu'on ne peut pas vivre dans le monde tel qu'on vit actuellement si on veut pouvoir continuer à vivre, qu'il faut une transformation radicale du social et donc dans toutes les sphères de notre vie. Donc, si on a un féminisme qui assume ça, alors c'est un féminisme qui peut porter les différents mouvements sociaux, les différentes luttes sociales et qui peut les animer. Un autre élément auquel je pensais, ce que l'approche féministe elle apporte aux luttes, c'est aussi, je pense, une meilleure considération du prendre soin dans les luttes. Quelque part, de rompre avec certaines approches plus macho, plus virilistes des luttes, de faire attention à la question de la répartition des tâches politiques, qui fait quoi, qu'il n'y ait pas une reproduction genrée des tâches politiques, que ce ne soit pas toujours la personne qui s'exprime avec le plus d'aisance ou qui a la plus grande gueule, qui ait la parole, qu'au sein des luttes, la lutte contre les violences sexuelles et le sexisme soit une préoccupation, de faire en sorte de supprimer, dans les manifs syndicales, par exemple, les pétards qui embêtent la plupart des personnes, qui font peur et qui ne servent à rien. Enfin bon, voilà, donc, mais peut-être un dernier élément de réponse, il y a la question de qu'est-ce que le féminisme peut apporter aux luttes du mouvement ouvrier, mais je pense qu'il faut aussi inverser les choses, qu'est-ce que les luttes de classe, qu'est-ce que l'anticapitalisme peut apporter au mouvement féministe, c'est aussi une question fondamentale, parce que ça, et ça je pense ça met le doigt sur un enjeu fondamental pour moi actuellement, c'est aussi de combattre un féminisme libéral, dont pour moi, le gouvernement Vivaldi, pour moi et pour d'autres, le gouvernement Vivaldi est un très bon exemple de ce féminisme libéral, avec beaucoup de communication autour de quelques subsides qui sont débloqués, mais qui finalement ne permettent pas un vrai changement structurel, un accent sur la représentativité des femmes, ministres, etc., mais qui finalement ne change pas la condition de la majorité des femmes dans le pays, la question de rompre le plafond de verre, ce féminisme libéral-là, il faut le combattre. Et la seule façon de le combattre, c'est en assumant de mener une lutte de classe et une lutte féministe. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de lutte de classe sans féminisme. Et il n'y a pas non plus d'émancipation des femmes et des minorités sexuelles sans lutte de classe.
Et toi, Ariane ?
Oui, donc je partage la vision et les éléments très pédagogiques de Roxane, mais au-delà de ça, moi je dirais que je pense qu'il faut quand même repérer ce qui se passe actuellement au-delà de ce qui se passe au niveau du gouvernement belge. à un niveau international, ce qu'on met derrière MeToo, quoi, ce mouvement MeToo, je pense qu'il opère vraiment un changement culturel majeur, peut-être depuis ces 50 dernières années. Et même si on a plein de critiques à faire sur les politiques menées, globalement, quand je parle de changement culturel, c'est-à-dire dans l'esprit des gens, les débats de société, etc., même s'il reste énormément de sexisme et de stéréotypes et de violence et de discrimination, j'ai aucune illusion là-dessus, la conscience est quand même en train vraiment de changer et toute une série de choses qu'on pouvait dire sans complexe. Aujourd'hui, ça va être plus difficile de les exprimer, même si j'imagine plein de mecs continuent à le penser. Et inversement, il y a plein de choses qui étaient difficiles à dire pour des femmes et on voit quand même qu'il y a une parole qui est non seulement libérée, mais aussi de plus en plus entendue. Et donc, je veux dire, enfin, je pense que les effets concrets sont encore à vraiment hyper fort amplifier et que toutes les violences restent très fortes aujourd'hui. On est quand même dans un basculement où le mouvement féministe, depuis 50 ans, a réussi finalement à mettre cette question à l'agenda et à la faire exister dans le débat public, sur le fond, comme Roxane l'a dit, mais aussi sur une façon de militer, une façon de s'organiser dans la joie, dans la prise de sang, enfin, tout ce que Roxane a dit, et avec des thèmes quoi, qui, en tout cas, moi, m'enthousiasme, m'inspire et me font avoir confiance dans ce mouvement social. Et donc, peut-être quelques leçons qu'on peut en retirer pour l'action. Bah, d'abord, je pense que c'est la complémentarité entre plein de niveaux. Donc, il y a le niveau politique, il y a le niveau des mouvements féministes, des luttes, mais il y a les médias, mais il y a des secteurs comme... Enfin, c'est parti de Hollywood. Donc, c'est-à-dire qu'il y a en fait plein de champs de la société qui se mettent au travail à un moment sur le même thème et qui s'amplifient les uns les autres. Je pense qu'il y a une transmission générationnelle qui a lieu parce que là, c'est aussi des meufs et des personnes super jeunes qui sont vraiment en avant-plan de la scène. Et ça, moi, enfin, je pense que ça fait super plaisir en vrai. Et aussi vraiment une articulation, où on pourrait dire des allers-retours entre le champ politique et le champ associatif où l'un vient nourrir l'autre avec toujours aussi cet esprit critique qui dit que ça ne suffit pas ce qui est fait, mais qui permet quand même d'alimenter et de pouvoir s'ancrer dans ce qui se fait sur le terrain. Donc, pour moi, c'est vraiment un moment qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il faut continuer à rester plus exigeante, mais qui est hyper important dans ce qu'on est en train de vivre. Et moi, du haut de mes 40 ans, je me souviens quand moi, j'ai fait un mémoire sur le mouvement féministe. Enfin, non seulement personne utilisait ce mot, mais personne ne savait ce que c'était. Enfin, c'était vraiment ultra, ultra invisibilisé et minorisé. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette ambiance-là. Et dernier élément, ça a lieu à un niveau international, quoi. Mondialement, sur tous les continents, cette question est mise au travail. Donc, pour moi, c'est quand même un méga succès des mouvements féministes depuis 50 ans d'avoir réussi à mettre cette question autant à l'agenda qu'elle l'est aujourd'hui.
Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, qui est très important, sur le mouvement MeToo et toute la lutte contre les violences MeToo, mais aussi... la lutte contre les violences, c'est aussi le catalyseur des grèves féministes au niveau international. C'est aussi en Amérique latine, ça part quand même des féminicides. En Pologne, ça part de la question de l'avortement. Aux États-Unis, ça part de l'investiture de Trump. Enfin, voilà, donc la question des violences, elle est assez centrale dans les luttes féministes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans les mouvements féministes massifs de ces dernières années, il y a eu une articulation qui a été faite entre la question des violences et la question de dans quel monde on vit. C'est-à-dire, on a vu des mouvements de masse dirigés par les femmes qui posaient la question non seulement stop violence, mais aussi stop exploitation, stop misère, stop colonialisme, stop destruction de la planète. Enfin bon, c'est quand on regarde en Belgique, en tout cas dans le mouvement du 8 mars en 2019, j'ai participé à plusieurs des assemblées, enfin à toutes en fait, des assemblées générales. C'était assez historique. Enfin, en tout cas, moi, sur les 10 dernières années, je n'avais pas vu ça, c'est-à-dire des centaines de femmes qui participent à des assemblées générales pour organiser une grève tous les mois au niveau national avec des personnes qui viennent des quatre coins de la Belgique et qui travaillent sur quel programme, quelles revendications défendent, dans quel monde on vit. Et on voit que ça devient total. C'est-à-dire, on parle des violences, mais on ne peut pas parler des violences sans parler de la question des salaires. Et on ne peut pas parler de la question des salaires sans la question des droits sexuels et reproductifs. Et on ne peut pas parler de ça sans la question de la régularisation des personnes sans papier. Et donc, voilà, on commence à redéfinir un autre monde et un autre projet social. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est ce que tu disais du lien entre l'associatif et le monde militant. Je pense que Mais c'est aussi un élément très important, et c'est aussi un élément très important en Belgique, hein, quel est le lien entre le mouvement féministe associatif et le mouvement féministe autonome et indépendant. On sait qu'il y a des recoupements, et moi je pense que les organisations historiques féministes en Belgique, elles ont un rôle à jouer, mais elles sont structurellement limitées dans la capacité à initier un changement radical, si on veut. Du fait d'être articulées d'une certaine façon à l'État, structurellement, c'est très compliqué d'initier une transformation telle que celle dont on nécessite. Et en même temps, il peut y avoir un rôle d'amplificateur des luttes, comme il peut y avoir un rôle de frein aux luttes. Et pour donner un exemple très concret, par exemple, le fait qu'un mouvement aussi important en Belgique que Vie Féminine soutienne ou pas la grève féministe. Donc, la grève, ce n'était pas programmé, ce n'était pas inscrit dans nos calendriers. Il y a tout un contexte international, il y a un contexte local, il y a un appel à la grève qui émerge de personnes, enfin, en l'occurrence en Belgique, d'étudiantes qui n'étaient pas connues des milieux politiques, etc. Beaucoup d'organisations politiques décident de le suivre, comprennent que c'est fondamental et important, que c'est là que se passe la démocratie. Le fait que Vie Féminine le soutienne, la grève, mobilise ou pas pour la grève, c'est fondamental. C'est vraiment un enjeu, quoi. Enfin, c'est pour rebondir sur là où moi je vois le rôle du milieu associatif féministe, des organisations féministes et l'importance aussi de mouvements, d'un mouvement féministe autonome et indépendant de l'État.
Donc moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je parlais de complémentarité. Je pense que dans les luttes, et les luttes féministes en particulier, il y a une sorte de nécessité d'avoir tous les types d'organisations qui vont être des plus institutionnalisées, au moins institutionnalisées, et que ça fait un peu écosystème avec de la conflictualité. Donc pour moi, écosystème, ça lisse pas les rapports de force, mais qu'on a besoin d'associations très structurées, très institutionnalisées, je peux pas le dire autrement, et puis tout un vivier autour qui permet de stimuler, pousser, intensifier les luttes, etc. Donc pour moi, c'est une évidence. Et le dernier élément par rapport à ta question, je pense parce qu'on... Voilà, il y a ce mouvement qui est enthousiasmant, il y a ces luttes. Pour moi, le levier, ça reste les droits. Voilà, je pense que toute avancée pour les femmes ou la population en général, elle est toujours passée par conquérir des droits, arracher, on pourrait dire, des droits. Et donc aujourd'hui, c'est ça qu'on doit continuer à faire. C'est pas seulement une parole libérée, un discours, une conscience, mais c'est des nouveaux droits ou renforcer les droits effectifs pour les femmes, pour les personnes LGBTQIA+, des droits concrets. C'est ça qu'on doit viser. Et en fait, dans le contexte très menaçant de l'extrême droitisation de la société, ça va être aussi pouvoir continuer à garder les droits existants. Roxane parlait de l'avortement, on voit bien dans tous les pays autour que ça redevient un débat d'actualité de pouvoir juste maintenir des droits. Et donc pour moi, ces luttes-là, elles doivent quand même s'organiser autour de l'exercice des droits.
Tu parlais du contexte, justement, Ariane, de droitisation de la société. Est-ce qu'il y a des enjeux comme celui-ci auxquels vous serez particulièrement attentive pour les prochaines élections? Je pense notamment au fait que le Vlaams Belang est placé par les sondages à près d'un quart des intentions de vote en Flandre, ce qui en ferait le premier parti, avec la N-VA juste derrière. Voilà, ça pourrait être un enjeu auquel être attentive, et c'est un enjeu qui est très préoccupant. Ça peut aussi être un enjeu, disons, plus positif que vous auriez envie de pointer, mais à quoi est-ce que vous allez être particulièrement attentive, en fait, dans les semaines et dans les mois qui vont venir, qui précèdent les prochaines élections?
Mais donc ici, peut-être juste pour remettre un peu dans le contexte, ce qui est nouveau, je pense, avec l'extrême droitisation de la société qu'on observe partout dans le monde et dans toutes les grandes élections, il y a eu des leaders d'extrême droite qui ont gagné ou qui étaient tout proches de la victoire, c'est que c'est plus quelque chose qui est très distinct du reste de la classe politique. Donc dans l'histoire ou dans ma mémoire de l'extrême droite, il y avait vraiment un cordon sanitaire hyper affirmé par rapport à Le Pen. C'était vraiment quelque chose de très étranger à nous-mêmes, où on pouvait vraiment voir des frontières très très imperméables. Aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est cette forme d'hybridation où il y a beaucoup plus de continuum et entre le discours et entre les politiques prises, entre les partis d'extrême droite et en tout cas de la droite. Et c'est pour ça qu'on parle d'extrême droitisation de la société. On voit que les idées d'extrême droite, en fait, elles se propagent dans toute la classe politique. C'est évident sur l'immigration, on a vu avec l'actualité récente en France, mais en vérité, même sur la stigmatisation des allocataires, même sur le contrôle policier, les violences policière, enfin sur une série de dossiers aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des idées qui se propagent dans la société dont finalement tout le monde s'y habitue. Et donc, pour moi, c'est pas seulement... Évidemment, il y a la lutte contre l'extrême droite en tant que telle et tous les mouvements antifascistes. Ça, c'est une évidence et il faut les maintenir, les continuer. Mais c'est aussi pouvoir tout le temps faire un travail de décryptage pour montrer que, y compris dans les discours portés par les autres partis, il y a des idées d'extrême droite qui se propagent. Et c'est très, très clair sur la question des migrants. Le fait qu'on s'habitue tous, finalement, à ce que la crise de l'accueil fasse que des enfants dorment dans la rue quand ils gèlent ou que des personnes meurent chaque jour en Méditerranée, pour moi, c'est aussi l'extrême droitisation de nos esprits. Et donc ça, c'est aussi le cas par rapport aux matières qui concernent singulièrement les femmes. Il y a en fait cette hybridation et l'extrême droitisation de la société, elle décomplexe tout le monde sur les discours sexistes et racistes. Et donc, évidemment, c'est hyper dangereux par rapport aux droits fondamentaux des femmes, quoi. Ça, c'est le contexte, je pense, dans lequel la question s'inscrit, mais je te laisse la parole.
Oui, mais effectivement, l'extrême droite, c'est un danger dans beaucoup de pays européens. Enfin, plus qu'un danger, c'est une présence dangereuse parce qu'elle est là, elle est réelle, elle est active. Et donc, voilà, il faut bien qu'on prenne conscience que c'est là maintenant. En Belgique, moi, je pense qu'un enjeu important est aussi celui de pouvoir se mobiliser des deux côtés de la frontière linguistique. C'est un enjeu important pour les féministes et pour les syndicats qui, il me semble, doivent s'unir dans leur lutte pour lutter contre l'extrême droite. Dans ta question, je ne sais plus si tu l'as formulée maintenant, mais dans les questions de préparation, tu parlais aussi de mais comment on se prépare un peu aux élections en voyant que, ben, voilà, en Belgique, il y a peut-être aussi le risque d'une fracture des deux côtés du pays, que le Vlaams Belang est quand même en tête des sondages du côté néerlandophone. Voilà, moi, je pense que, quelque part, si ça amène à un blocage institutionnel au niveau du gouvernement, ce ne serait pas notre plus grand problème, dans le sens où on a déjà eu plusieurs crises politiques en Belgique, et il faut se rappeler qu'en fait, les deux fois, cette crise politique, le fait qu'on n'ait pas de gouvernement, en fait, ça a retardé les plans d'austérité et la mise en place des mesures d'austérité. Maintenant, la vraie question, c'est comment sommes-nous capables de nous mobiliser face à ça ? Et donc, c'est fondamental de travailler les alliances au-delà de la frontière linguistique. C'est fondamental de s'organiser. C'est fondamental de dire, mais il y a une lutte contre le fascisme, contre l'extrême droite, contre la droiture à mener. Et c'est une lutte qui ne peut pas se mener sans lutte anticapitaliste non plus. Et là, je repensais je paraphrase Clara Zetkin, hein, qui est une grande féministe communiste, qui disait mais qu'on ne peut pas parler du fascisme si on ne veut pas parler du capitalisme. Il faut pouvoir s'attaquer aux deux, et les enjeux sont de taille. Enfin, je ne sais pas, ça m'intéresserait aussi de voir ce qu'Ariane en pense de comment on pourrait favoriser les contacts et les initiatives communes entre organisations des deux côtés de la frontière linguistique, parce que comme militante de base, voilà, je suis en contact avec des féministes néerlandophones, mais je peux aussi dresser le constat que, ben, voilà, qu'il n'y a pas tant de liens que ça. On a mené campagne sur la question de l'avortement avec la gauche anticapitaliste et d'autres organisations féministes ces dernières années. Et voilà, on était en contact avec les plannings familiaux, on était en contact avec le GACEPA, il n'y avait pas forcément de lien avec le pendant néerlandophone, et c'est un peu comme ça pour toutes les associations féministes. Donc comment est-ce qu'on pourrait renforcer le lien ? Moi, ça me paraît être une question clé. Et puis, bon, pour répondre aussi sur la question de l'extrême droite, mais peut-être on va voir si c'est la prochaine question ou pas, mais je pense que c'est aussi, voilà, quels sont les enjeux déterminants pour nous ? Quels sont les revendications clés qu'on doit porter ? Quelles sont les luttes qu'on doit mener de façon, comment dire, sans concession ? Aucune, je pense, ça pose cette question-là, mais je laisse ça peut-être à la suite.
Plusieurs choses dans ce que Roxane disait. Déjà, rebondir quand l'extrême droite est déjà là, en effet, ce n'est pas une crainte qui va arriver. On voit ici qu'il y a vraiment, par exemple, les mères lesbiennes en Italie, elles ont une déchéance de maternité. Donc, c'est des droits concrets qui jouent sur la vie des personnes en vrai. On en est là, et donc, il y a toutes les raisons d'être vraiment inquiets. Et donc, par rapport à ça, pour le MOC, qu'il faut faire, c'est pas simplement dénoncer. Évidemment, il faut identifier, dénoncer, nommer l'extrême droite, la présence de l'extrême droite. Mais il faut, nous, on a une responsabilité, les mouvements sociaux. On parle de la démocratie en action, mais ça veut dire vraiment travailler à plus de droits. Donc faire l'inverse, aller chercher la suppression du statut de cohabitant, aller chercher des mesures qui luttent vraiment contre la précarité des femmes, contre les violences. Donc pouvoir nous-mêmes renouer aussi une confiance en obtenant des droits qui ont un impact concret sur la vie des personnes. Et donc, pour le MOC, le seul contre-feu, c'est de pouvoir nous-mêmes, de façon offensive, aller chercher des nouveaux droits, quoi. C'est, au-delà de dénoncer, il faut que nous-mêmes, on soit en capacité d'organiser des rapports de force qui nous permettent de répondre aux besoins concrets des personnes.
Et quels nouveaux droits ? Donc, tu disais, tu donnais l'exemple du statut, de la suppression du statut de cohabitant, cohabitante.
Ça, pour nous, c'est vraiment une des priorités, parce que c'est une mesure en fait, qui permet de à la fois être sur les aspects socio-économiques et de jouer sur la précarité de, principalement des femmes, mais aussi sur les aspects écologiques en permettant à des personnes simplement de vivre ensemble, de partager un logement, et sur les aspects démocratiques, parce qu'en fait, on revient sur une inégalité, une injustice fondamentale entre des personnes qui sont en statut d'isolé et statut de cohabitant. Donc pour nous, donc, c'est une mesure vraiment symbolique.
Pardon ? Pour les auditrices qui ne connaissent pas
les allocations dans toutes les branches de la sécurité sociale et au niveau du CPS, quand des personnes vivent ensemble, on considère qu'elles peuvent mutualiser leurs ressources et donc la personne qui est au statut de cohabitant va toucher moins. Et c'est une mesure en fait qui historiquement a été une injustice pour les femmes parce que c'était essentiellement les femmes qui étaient au statut de cohabitant. Et donc c'est une revendication historique du mouvement féministe de simplement dire chaque personne ouvre des droits en travaillant, en cotisant et donc doit pouvoir bénéficier de droits propres complets. Ça, c'est une revendication. Donc ça, c'est un exemple pour dire que c'est une mesure qui est possible à prendre. Comme Roxane l'a dit, c'est un choix politique qui permet de répondre aux besoins des personnes, de renouer une confiance dans les institutions. Et donc, c'est un exemple concret qui permettrait en soi de pouvoir déconstruire tous les discours qui sont le terreau de l'extrême droite aujourd'hui. Après, des droits pour les personnes migrantes, une régularisation des personnes sans papier, on a pris l'exemple du logement tout à l'heure. Pour moi, tous les droits qui viennent vraiment répondre aux besoins des personnes résistent à l'extrême droite, en fait.
Oui, Roxane, tu voulais compléter ou...
Oui, parce que je pense que c'est intéressant de voir comment les droits, il me semble que tu parles, Ariane, c'est les droits sociaux, en gros, c'est des changements de nos vies. Enfin, si on veut. Parce que le droit, on peut aussi l'entendre comme le changement légal, un changement juridique. Et donc, bien sûr, la suppression du statut de cohabitant qui est fondamental, ça passerait aussi par un changement juridique. Les conditions d'accès à l'avortement, ça passerait par... Oui, ça passerait par des lois. Mais donc, ça me fait rebondir sur la question des lois et d'une focalisation sur les questions juridiques et de pointer quand même que les droits, c'est aussi toujours l'expression d'un rapport de force. Il ne suffit pas des droits sur papier, il faut des droits qui soient appliqués. Et donc, ça, je pense qu'on doit aussi l'avoir en tête quand on parle de la question d'obtenir plus de droits. On doit se battre pour ces droits-là, mais on va devoir se battre pour qu'ils soient véritablement appliqués. Et ça, ça nous est montré par la question de, a priori, les personnes exilées, elles ont des droits en Belgique, mais ce n'est pas appliqué. A priori, on devrait avoir le droit de grève, mais on a vu comme ça a été menacé. Récemment, a priori, la Belgique, elle doit investir dans la lutte contre les violences avec la Convention d'Istanbul, mais c'est loin d'être le cas. Et donc, je pense que le traitement des personnes exilées sans papier, ben, c'est l'expression la plus évidente du fait que ben, les droits sur papier ne fait pas le droit effectif, mais aussi de la nécessité pour le système de maintenir des personnes en dehors du droit. Et Ariane, tu mentionnais les travailleuses domestiques sans papier tout à l'heure. Ben voilà, des travailleuses dans le nettoyage, dont le système a tout intérêt à les maintenir dans un état de surexploitation. Idem par rapport à toute la question des violences policières. Hein, on devrait pouvoir légalement être protégé de ces violences policières. C'est loin d'être le cas, comme le montrent toutes les luttes pour les justices et réparations de victimes de violences policières, dont notamment une femme, hein, Sourour, qui a été tuée cette année. Et ça fait aussi parler de la question de la Convention d'Istanbul. Enfin, voilà, donc la Belgique est obligée de mettre en place des moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes juridiquement. Il y a eu le Grevio qui a fait un premier bilan.
Donc c'est un groupe d'experts.
Un groupe d'experts qui était mandaté internationalement pour faire un bilan de l'application de ces contraintes par la Belgique. Et c'est un moment, donc je pense que c'était 2019, où les associations féministes se sont aussi rassemblées pour faire un rapport alternatif à celui du Grévio, en disant, mais nous, on va faire pas un rapport à partir des experts qui viennent de l'extérieur pour évaluer les choses, mais à partir du terrain, à partir des constats de base pour nous. Et donc, elles ont écrit tout un carnet de revendications, de constats et de revendications, et notamment le fait qu'elles estiment qu'il faudrait que la lutte contre les violences faites aux femmes nécessite au moins 2% du PIB. 2% du PIB, si on y réfléchit un peu, c'est énorme. C'est énorme et pourtant, c'est nécessaire si on veut mener une véritable lutte contre les violences. Et donc, on comprend que si on veut qu'on puisse investir les moyens nécessaires dans la lutte contre les violences, on ne pourra jamais se satisfaire de la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, en elle-même, ne va pas produire ça. C'est les luttes féministes qui vont permettre d'imposer, parce que ça pose vraiment la question de où on va trouver l'argent. Et donc ça vient poser aussi la question de l'impôt sur les grandes fortunes, ça vient poser la question du contrôle des banques, ça vient poser des questions plus fondamentales, parce qu'effectivement, il faut trouver cet argent et il faut aller le chercher quelque part. Donc voilà, c'était pour rebondir sur la question des droits. Je pense qu'il faut rompre aussi, moi je suis toujours surprise, enfin, j'adore aller regarder ce que les associations produisent dans le cadre des élections comme carnet de revendications. Je trouve ça extrêmement utile pour, comme militante féministe. Le problème, c'est que ces carnets de revendications, généralement, ils ne sont pas adressés à moi, à la militante féministe, à la femme citoyenne lambda. Et ça, je pense qu'il faut rompre ça. Il faut que ces mémorandums ne soient pas adressés aux politiques, parce que c'est continuer à nourrir une espèce de pensée magique où on voit qu'à la veille des élections, on va faire un carnet de revendications pour espérer qu'au prochain mandat électoral, il y ait quand même quelques revendications qui passent. Sauf qu'en fait, généralement, on voit que non, on est trahi et qu'il y avait beaucoup de blabla avant, mais que finalement, ça ne se concrétise pas. L'exemple de l'avortement, c'est fou, quoi. C'était quand même une loi qui est portée par le PS et Écolo à la veille de la formation du gouvernement et qu'ils choisissent de mettre sur le côté pour monter au gouvernement et ils courbent les chines devant le CDNV. Et donc, tous ces exemples, pour moi, montrent que c'est à travers nos luttes qu'on obtient des droits, que les conventions juridiques, elles sont importantes, que les changements dans la loi sont importants, mais que ça ne peut pas se faire à la place des luttes féministes et que c'est à travers ces luttes-là qu'on les arrache et que ça devient vraiment des droits effectifs.
Donc finalement, on pourra jamais vraiment se reposer. Ah non. Tant qu'on ne sera pas arrivé à cette société à laquelle on aspire, qui est peut-être la dernière question que j'ai envie de vous poser pour conclure cette heure des éclaireuses. Nous, dans notre numéro de novembre-décembre 2023, Axel, on a fait le pari d'une utopie journalistique féministe. On a imaginé qu'on était en 2028 et que pour la première fois en 2028, il n'y avait pas eu de féminicide en Belgique. Donc on a fait tout un dossier pour essayer de comprendre comment on en était arrivé à cette situation historique. Donc bon, on a rêvé qu'il y avait eu un certain nombre de changements majeurs qui avaient eu lieu, notamment un gouvernement d'union nationale féministe, des actions décisives de collectifs ultraviolets, la transformation de secteurs entiers de la société. Voilà, toi-même, Roxane, tu disais aussi, pour moi c'est aussi une utopie, hein, tu disais, imaginons que les crèches soient organisées par les travailleuses et par les usagères, ça ressemblerait à quoi? Voilà, j'ai un petit peu envie de vous demander pour conclure cette émission, quelle serait vous votre utopie pour 2028?
Moi, ce serait vraiment une grande et belle démocratie approfondie. Aujourd'hui, et même dans nos échanges, j'ai l'impression qu'on a tendance à tout de suite aller sur les dossiers, sur les revendications, sur la stratégie. Alors que pour moi, il y a une question méta, c'est-à-dire, c'est pas seulement la question de quelle société on veut, mais c'est aussi par quel chemin démocratique on va pouvoir décider nous-mêmes de notre avenir. Et donc, en amont, pour moi, je comprends dans tout notre échange et je ressens que le seul fil conducteur possible de tous les combats qu'on a traversés, c'est la démocratie et que si on était plus fort dans notre capacité à faire démocratie, donc pas seulement dans la démocratie politique, mais dans toutes ses dimensions, qu'on peut vraiment faire progresser les droits individuels et collectifs et donc développer finalement du pouvoir d'agir, qui est tout à fait autre chose que d'arracher une revendication ici ou là, mais c'est vraiment de se demander finalement, pas seulement qui décide, mais comment on décide tous ensemble. Ça, pour moi, c'est la question de ce moment-ci, dans ce contexte qu'on a décrit au début de toutes ces crises, entre guillemets, enchevêtrées. C'est vraiment de se dire, dans ce moment, comment on se garantit de pouvoir décider tous ensemble la société de demain, c'est-à-dire une société qui doit être une société de justice, de paix et d'égalité.
Donc c'est intéressant, ça veut aussi dire que tu penses que, si je comprends bien, qu'à partir du moment où on a des processus qui sont démocratiques, probablement les résultats le seront, mais c'est-à-dire que le processus va être la garantie qu'on va arriver. On arrive, enfin, c'est une confiance aussi que tu as dans la capacité des personnes ensemble, unies avec des processus démocratiques, de prendre des décisions qui sont justes. Il y a plein d'expériences en démocratie qui sont très intéressantes à ce titre.
Donc pour moi, si on est engagé en politique au sens large, c'est la seule hypothèse qu'on peut tenir, sinon autant faire autre chose. Et après, ça veut dire que collectivement, on peut se tromper, mais que les processus, ils permettent aussi d'ajuster le tir et que si à un moment, on se dit qu'on a été dans une mauvaise direction, on peut revenir en arrière. Donc oui, pour moi, c'est vraiment la pensée contre. À cette époque-ci, elle met un peu en avant le soi-disant que les personnes attendraient des leaders forts et charismatiques qui tout seuls seraient ce qui est bon pour la population. Non, moi, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est que c'est seulement dans les processus les plus collectifs possibles qu'on peut se garantir avec ce qu'on appelle les savoirs sociaux situés, donc à partir de l'expérience de tout le monde, mettre en œuvre les politiques qui sont les plus adéquates et qui garantissent le plus d'égalité seulement dans les processus les plus collectifs possibles, qui n'empêche pas de faire des allers-retours, de revenir sur une décision qu'on aurait prise précédemment. Mais pour moi, oui, c'est seulement ce modèle-là qui peut être porteur d'espoir et qui peut me rassurer. Ouais.
Merci Ariane. Et toi, Roxane ?
Pour moi, le processus démocratique ne peut pas être séparé des méthodes de lutte, de la question de la stratégie, la question des revendications. Enfin, tout ça est extrêmement lié, notamment par en fait, ce que tu viens de dire, Sabine, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini de se battre et de devoir dépenser beaucoup d'énergie. En fait, c'est impossible de participer, de se réapproprier les questions politiques et de introduire un rapport de force dans lequel on peut vraiment prendre une part active en tant que citoyenne et citoyenne, avec ou sans papier, avec ou sans emploi, sans faire grève, par exemple, sans se dégager du temps, en fait. On doit pouvoir se dégager du temps, donc ça pose la question de comment on se dégage du temps pour pouvoir participer, parce que sinon, on n'a pas le temps de participer. Je pense que la plupart des personnes, en fait, elles n'ont juste pas le temps. Donc, la seule façon de se dégager du temps, c'est de travailler moins. Et pour travailler moins, ça ne peut pas être un choix individuel. Ça doit être une structure collective. Donc, voilà, tout est extrêmement lié. C'est pour ça que, pour moi, on doit assumer le fait de dire qu'il faut des méthodes de lutte différentes, il faut des méthodes de lutte plus radicales, avec des revendications, avec un projet de société. Ça ne veut pas dire de savoir déjà, a priori, vers où on veut aller. Ça doit se construire dans le mouvement. Mais c'est quand même se donner la possibilité de rêver autour de ça. Je veux juste, avant d'aller plus loin, sur mon utopie, à moi, juste dire qu'un élément qui me semble important à rajouter, c'est qu'il y a des revendications sur lesquelles on ne peut pas céder, selon moi. On ne peut rien lâcher, on ne peut pas faire de compromis si on veut véritablement lutter contre l'extrême droite, si on veut véritablement lutter face aux enjeux écologiques qui sont face à nous, si face à la précarité, etc., on ne peut pas lâcher là-dessus. Si on lâche là-dessus, et c'est ce que font les partis au pouvoir actuellement en Belgique et dans d'autres pays, on va droit dans le mur. Et ces éléments clés pour moi, c'est la question de défendre la liberté de circulation et d'installation, ce que tu disais, la régularisation de toutes les personnes, avoir des politiques d'asile social, ça c'est fondamental. Deuxièmement, la question de l'avortement. Aux élections, là maintenant, on est dans le match de retour de 2019. Il va falloir arracher ce truc de l'avortement, peu importe le gouvernement qui sera mis en place. La question de la lutte contre les violences de genre et des violences racistes. Des investissements gigantesques dans la transition écologique et dans les services publics. Et donc tout ça, ça pose la question de où on trouve l'argent. Et c'est une question qu'on ne va pas pouvoir éluder encore longtemps. Vous savez, il faut des impôts drastiques sur les grandes fortunes et les multinationales. Il faut qu'on puisse reprendre le contrôle public des secteurs de la finance et de l'énergie. Et tout ça, c'est des leviers centraux pour la planification écologique et la planification féministe. Et donc, ce sont des utopies, mais l'utopie, c'est 2028. 2028, c'est demain. Donc, c'est maintenant, en fait. En fait, pour moi, la question de l'utopie, elle est super intéressante, parce que c'est la question de comment se permettre encore de rêver. Comment se permettre d'encore penser maintenant à une société autrement, et donc de combattre cette idée de « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative, qui est un peu le discours aussi des partis comme le PS écolo au gouvernement, c'est-à-dire sans nous, ce serait pire. Mais ce discours-là, ça tétanise. Ça empêche de se mobiliser. Donc, il faut rompre avec cette idée qu'il n'y a pas d'alternative et que nous, on n'en fait pas partie de cette alternative. Et donc, Mais donc utopie, pas au sens de « c'est pas possible ». Non, parce que tout ce que je viens de dire là maintenant, moi je suis convaincue que si demain on se mobilise de façon massive, c'est possible, comme les mesures d'exception dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour moi, dans mon monde idéal, si on veut, ben, on aurait toutes et tous beaucoup, beaucoup plus de temps libre. On travaillerait beaucoup moins, on produirait beaucoup moins et on partagerait beaucoup plus. On dirigerait ensemble nos lieux de vie et nos quartiers. On déciderait de où vont les investissements. On aurait un peu du luxe pour tout ce qui est collectif et de la sobriété pour tout ce qui concerne les biens individuels. Donc, on aurait des cantines de luxe avec de la super nourriture pas chère. On aurait un dispositif de train hyper performant en Belgique et au niveau international. On aurait des parcs pensés par les habitants et pas des espèces de points de verdure pour masquer en fait la bétonisation dramatique de nos villes. Donc voilà, du luxe pour tout ce qui est collectif, on serait sorti des énergies fossiles. Ça, c'est également fondamental. On serait débarrassé de tout type de violence. En fait, on serait débarrassé du fait que dès la naissance, en fait, le genre qu'on est ou l'origine qu'on aurait viendrait faire qu'on serait à risque de plus de violence, qu'on serait à risque de plus de discrimination. Enfin, tout ça, on en serait débarrassé. Et en même temps, si des violences devaient avoir lieu, eh ben, y aurait des dispositifs de prise en charge réels des personnes qui subissent ces violences, mais aussi des auteurs de violences. Et on serait vraiment dans une perspective à chaque fois de transformation sociale et de réparation et de soins, en fait, pour nous, la collectivité et la planète.
Donc un changement radical des processus et du paysage et du quotidien au niveau national, au niveau international. Bah, merci beaucoup, c'était vraiment super passionnant de s'entretenir avec vous. Ça redonne aussi beaucoup d'espoir. Ça remobilise en fait, ça donne envie de s'engager, de se dire que oui, c'est possible d'avoir une société un peu plus solidaire, plus égalitaire, plus juste, avec des processus plus démocratiques et une visée très collective et très généreuse. Merci pour votre temps. C'était l'heure des éclaireuses. On a enregistré cette émission le vendredi 19 janvier 2024 dans les locaux de Radio Campus Bruxelles. Merci à l'équipe. C'était animé par Sabine Panet. Pour écouter les émissions précédentes et l'ensemble de nos séries de podcasts produites par Axel, rendez-vous sur le site de notre média www.axelmag.be ou sur nos réseaux sociaux.